puissions considérer notre propre culture comme quelque chose d'aussi étranger à nous-mêmes que la culture, par exemple, des Arapèches, ou des Juifs, ou des Mandichoiras, ou comme la culture chinoise, par exemple.
Radio n'étant pas télévision, nous ne pouvons pas offrir à l'auditeur ce que nous aurions offert aux téléspectateurs, c'est-à-dire des images.
Vous ne croirez pas combien j'appréhende la mort.
Vous vous méprenez bien fort, car je le crois, voire plus que vous ne le dites. Mais vous ne croiriez pas, vous qui parlez, combien vous êtes de petit sens et combien vous avez l'esprit faible et tout fourré de vaines frayeurs. Si la craignant vous la pouvez échapper, je suis d'avis que vous trembliez jour et nuit de peur. Mais si vous lui donnez des ailes pour voler plus vite et vous venir couper la gorge, n'est-ce pas une grande sottise? La crainte sert de planche afin que ce que nous craignons vienne à nous, et plus tôt, et plus droit. Au lieu de mourir, comme porte l'arrêt de notre condamnation, vous mourrez tous les jours et vous donnez continuellement la question à votre pauvre cœur, y jetant dedans des appréhensions vaines et cruelles. Pourrait-on voir plus grande niaiserie que de mourir de la crainte de mourir ?
Quoi ? Vous voudriez que, d'un œil assuré et sans changer de couleur, je visse cette cruelle venir avec sa grande faux me trancher la gorge ?
Le désespoir d'échapper ôte la crainte du cœur. Là où il n'y a point d'espérance, aussi n'y a-t-il point de frayeur ? Puisque vous et moi sommes condamnés sans ressources, condamnons notre crainte à mourir avant nous.
Bonjour chers auditeurs, vous êtes sur les ondes de Transistor, et comme chaque mercredi, nous vous retrouvons dans Transistorien, votre rendez-vous d'histoire. Généreux comme nous sommes, nous avons entendu vos prières et tâchons de les exaucer. Oui, chers passionnés de paléographie, chers amoureux du temps jadis et chers novices curieux, longtemps, Transhistorien a cruellement manqué d'histoire moderne, et il est grand temps pour nous de réparer cette erreur. Après notre petit détour du côté du Versailles de Louis XIV en compagnie de Clément, nous avons aujourd'hui l'immense plaisir de recevoir Philippe Martin qui enseigne l'histoire moderne à l'université Lyon 2 et qui a accepté notre invitation. Philippe Martin, bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes venu discuter avec nous des représentations de la mort à travers l'époque moderne et nous nous intéressons aujourd'hui plus particulièrement à votre ouvrage « Petite anthologie du bien mourir » publié en 2012. Alors comme son nom l'indique, il s'agit d'un recueil de textes commentés et qu'on pourrait regrouper sous la catégorie des Ars Moriendi qui conseille donc au lecteur l'art de bien mourir, un genre littéraire extrêmement pérenne, puisque vous montrez que ces textes sont très nombreux de la fin du Moyen-Âge à l'époque contemporaine. Alors je vais tout de suite laisser la parole à Clément sur cet ouvrage.
Merci Mathilde. Alors Philippe Martin, bonjour. Alors notre première question, ce serait une question de public sur l'ouvrage, puisque par sa forme qui est celle de l'anthologie, il peut tout à fait remplir une fonction de vulgarisation. Alors est-ce qu'il s'agit pour vous aussi de vous positionner dans la continuité des travaux qui ont déjà été faits sur la mort, comme ceux de Michel Vauvel ou de Philippe Ariès, ou de prendre part à une réflexion peut-être plus contemporaine, puisque vous évoquez notamment le débat sur l'euthanasie, vous évoquez aussi la culture populaire sur la mort dans votre introduction.
Bah, c'est très gentil de me mettre à la suite de Michel Vauvel et de Philippe Ariès. Vous me faites rougir, hein, même si à l'antenne, ça ne se voit pas. Alors, le public visé, il est, j'allais dire, triple. Hein. Il y a un public d'historiens, en effet, un public de passionnés d'histoire. Il faut remarquer qu'il y a un public de curieux, un peu de voyeurs. Ah, ça, je ne le cherchais pas, hein. Mais c'est le cas. Voilà. Il y a eu une publicité dans Elle pour le Noël 2012 où on disait « Offrez ça à votre belle-mère, elle comprendra le message ». Ça, je ne m'attendais pas obligatoirement à ce type de public. Et puis, là non plus, un troisième public auquel je ne m'attendais pas, c'est en effet la résonance avec les débats actuels. Et le livre a deux vies, une vie donc, dans le domaine de l'histoire et puis surtout une vie dans le domaine justement de résonance avec tout ce qui se passe aujourd'hui, puisque le monde qui est décrit dans ce livre est un monde totalement disparu.
Alors justement, les auteurs qui décrivent ce monde, donc vous les avez pris à l'époque moderne et un peu aussi à l'époque contemporaine avec le 19e siècle, est-ce que vous pouvez un peu les présenter pour nos auditeurs ? Ce sont plutôt généralement des gens dévots, vous êtes limité à des textes d'extraction catholique. Ce sont plutôt des gens qui écrivent de leur propre initiative ? Est-ce qu'ils sont poussés par une institution comme l'Église catholique ? Et simplement, qui sont-ils ?
Alors, tous les auteurs de cet ouvrage ne sont pas des grands théologiens, ne sont pas des grands philosophes. Hein. J'allais dire, c'est ce qu'on va appeler une littérature intermédiaire. C'est ni la littérature des grands intellectuels, des grands penseurs, ou des grands théologiens, ni non plus la littérature de colportage, la littérature de corde, c'est-à-dire des petits livres qui sont diffusés extrêmement facilement. C'est l'immense champ du livre de piété. Livre de piété, c'est une catégorie de littérature qui est complètement négligée aujourd'hui, en tout cas dans les recherches, mais qui a été quelque chose de fondamental. Fondamental parce que c'est quelque chose qui a irradié toute la culture pendant une période qui va du milieu du XVIIe siècle jusqu'à la veille de la Première Guerre mondiale. On est incapable de donner des chiffres de production, mais on est tous les ans à plusieurs millions de livres qui sont vendus. Ce qui veut dire qu'en choisissant ces auteurs et en choisissant des livres, j'ai choisi ce que le public lit. Autrement dit, de ce qui a formé l'intention, le modèle qu'on aurait voulu que les gens adoptent pour bien mourir.
Je rebondis un petit peu sur ce que vous venez de dire, puisque dans ce modèle du bien mourir, on a des descriptions de la mort qui sont crues. Comment expliqueriez-vous à nos auditeurs la crudité de ces descriptions, une crudité qu'on retrouve dans les textes, comme dans l'iconographie d'ailleurs? Est-ce qu'il s'agit de tout simplement de faire peur aux gens, ou est-ce qu'il y a autre chose?
Alors aujourd'hui, on considère que ces textes ou que l'iconographie fait peur aux gens. Elle fait peur aux gens de maintenant. Il faut bien nous rendre compte qu'aujourd'hui, très peu de personnes ont vu un cadavre, ont touché un cadavre, ont trituré un cadavre, ont fait la toilette d'un cadavre, très peu de gens ont accompagné quelqu'un en train de mourir, etc. Aujourd'hui, on délaisse tout ça à des professionnels. Or, jadis, la mort était quelque chose de très présent. D'abord, on mourait chez soi. Ce qui signifie que très jeunes, les enfants étaient habitués à voir des cadavres. Voir un cadavre, c'est pas simplement voir comme on a aujourd'hui quelqu'un qui est préparé, pas embaumé, mais enfin qui est avec un certain nombre de produits qui fait que le cadavre, on vous dit toujours aujourd'hui, ah, il a l'air reposé. Ça signifie qu'un cadavre, ça coule, hein, ça perd des liquides, de l'urine, des choses comme ça, que c'est pas propre, que ça se doit se nettoyer. Ça signifie qu'un cadavre, ça, vous m'excuserez le mauvais jeu de mots, une vie. Hein, ça se rigidifie, ça s'assouplit, ça coule, ça... Voilà, les gens sont habitués à ça. Ils sont habitués à ça, donc au contact du cadavre, et ils sont habitués aussi au contact de la mort. Les cimetières sont autour des églises, donc tous les dimanches, les gens vont à l'église et vont au cimetière. Les cimetières sont des endroits de vie. On y amène les gamins pour jouer, c'est là qu'on va y pendre le linge, c'est là qu'on va récupérer aussi les cochons qui vont gratter un peu le sol. Les ossements à fleurs, puisque de toutes les manières, les gens ne sont pas enterrés dans des fosses, mais sont enterrés simplement quasiment au ras de terre avec un simple linceul. Donc, tous ces textes traduisent une réalité. Alors, ils traduisent une réalité, mais qui est une réalité, comme l'a montré Philippe Ariès, qui, à partir du XVIe siècle, devient la réalité de l'autre. Hein, autrement dit, je suis au contact de la mort, je suis au contact du cadavre, mais c'est pas moi. Et ces livres rappellent aux gens que ça sera eux.
Alors maintenant, j'aimerais vous interroger sur à la fois sur le cadre un peu géographique et ensuite le cadre chronologique de votre étude. Sur le cadre géographique, quelque chose qui m'a marqué, il me semble que vous avez choisi uniquement des textes français, c'est ça, ou peut-être quelques textes étrangers qui m'ont échappé.
Non, ça vous a pas échappé, et ce sont que des textes français.
Voilà, alors qu'évidemment, c'est une réflexion qu'on peut tout à fait étendre à tout l'Occident. Comment est-ce que vous justifiez ce choix? Est-ce que c'était une simple nécessité? Est-ce que vous pensez qu'il y a une spécificité française, à une spécificité dans le cadre que vous avez choisi?
Qu'est-ce que vous voulez? Une réponse très intellectuelle ou une réponse très réaliste? La réponse...
Les deux.
Alors on va commencer par la réponse très réaliste. La réponse très réaliste, c'est que quand vous faites un livre, surtout un livre d'anthologie, vous heurtez à des questions de droit.
Oui.
Donc je devais trouver des textes qui étaient libres de droit. Donc, je ne pouvais pas aller sur la période tout à fait contemporaine. Oui. Sauf un texte qui a été écrit spécialement par quelqu'un qui accompagne justement des gens en fin de vie. Voilà. Oui. La deuxième chose, c'est que, toujours dans le côté réaliste, il y a une foule de textes étrangers qui sont très intéressants. Mais dans ce cas-là, il aurait fallu que l'éditeur paye un traducteur pour faire de bonnes traductions.
D'accord.
Je ne suis pas obligatoirement capable. Voilà, donc deux raisons réalistes. Mais ces deux raisons réalistes se heurtent aussi à une raison qui est une raison pragmatique. La raison pragmatique, c'est que donc les textes s'arrêtent à l'aube du XXe siècle. Parce que la Première Guerre mondiale et la grippe espagnole qui frappe les populations à la fin de la guerre, c'est un tournant complet. Hein, après Verdun, après les ossuaires, et puis après la photo qui permet aux gens de voir les cadavres, on ne peut plus raisonner sur la mort comme on l'a fait auparavant. Et puis... rester dans le monde français, c'est en réalité illustrer une culture européenne en général. Il n'y a pas de spécificité française. Bon, on aurait pu voir quelquefois une spécificité protestante, puisque par exemple, il est question dans le livre de jugement après la mort. Alors bien évidemment, ça, le monde protestant n'aurait pas exactement les mêmes choses. Mais autrement, ce contact et cette préparation à la mort, puisque le but, c'est quand même de montrer aux gens que la mort, ben, c'est un exercice, c'est un examen, et que comme tout exercice et comme tout examen, ça se révise et ça se prépare.
Très bien, je vous remercie. D'ailleurs, on peut continuer sur cette idée que vous avez aussi pris fait un autre parti pris, je voulais dire. C'est celui du temps long. C'est-à-dire que vous avez fait une époque moderne très élargie, finalement, parce que vous commencez au 15e, finissez au 19e. Moi, ce qui me réjouit plutôt, parce que ce découpage en période n'a pas toujours beaucoup de sens, mais alors ça suggère également d'envisager la chose dans son évolution.
Alors, dans le cas d'un ouvrage comme ça, le but est de montrer un fonctionnement, de montrer un espèce d'invariant pendant plusieurs siècles. Donc bien évidemment, ici, on va gommer les fluctuations chronologiques. Hein. Ces fluctuations chronologiques n'apparaissent pas. Les textes sont rangés en fonction d'un ordre thématique, hein, qui est la mort se rapproche, et puis après, qu'est-ce que je fais une fois que je suis dans mon cercueil, puisqu'il y a quand même un texte qui vous explique ce que vous devez faire quand vous êtes dans votre cercueil, sur le plan humoristique quand même.
Voilà. Et surtout pour conclure qu'on ne peut pas faire grand-chose finalement.
Ben non, voilà, là, il ne peut pas faire grand-chose, mais on va laisser au lecteur le choix de découvrir. Et à partir d'avoir gommé un peu ces différences chronologiques, qui sont bien vues dans des ouvrages de Michel Vauvel, etc., le but, c'est de montrer qu'on a une société qui, entre la fin du 15e et puis le début du 20e siècle, voilà, ce que je disais il y a un instant, considère que la mort n'est pas quelque chose de neutre, que la mort est quelque chose de présent et que ça se prépare.
Alors à propos de l'invariant justement, on voit dans votre anthologie qu'il y a énormément de textes qui sont réédités d'un siècle sur l'autre. Ça concerne beaucoup de textes, c'est ces cas de réédition qui font que des textes peuvent avoir été écrits par exemple au 17e et être encore lus au 18e, voire au 19e, même je crois qu'il y en a un lu encore tout début 20e, encore réédité. Ça concerne beaucoup de textes ça ?
C'est fondamental dans ce type de littérature, c'est fondamental. Alors la question de la réédition... Si je regarde simplement les chiffres du livre de piété, ça doit couvrir plus de la moitié de la production. Maintenant, il faut être assez attentif que certains titres sont des espèces de best-sellers. Alors qu'on a le titre, que le titre, lui, traverse les siècles, mais que le livre, il s'adapte en fonction du public. Voilà. Vous avez un des grands ouvrages de la mort qui s'appelle L'Ange conducteur. Mais L'Ange conducteur, on est incapable de savoir même combien il y a d'éditions, tellement le livre a été imprimé, mais un ange conducteur de 1700, par exemple, n'a rien à voir avec un ange conducteur de 2015. Parce que si moi, je m'arrête dans cette anthologie à l'aube de la Première Guerre mondiale, cette libre de littérature continue. Vous ne le trouvez pas en librairie, vous le trouvez beaucoup sur Internet, vous le trouvez beaucoup dans des groupes religieux qui se revendiquent d'une certaine tradition, mais ce sont des ouvrages qui sont en effet très très importants. D'où la force de l'invariant. Hein. C'est-à-dire que le modèle, puisqu'on est quand même dans le modèle, on n'est pas dans le vécu des gens, le modèle, lui, a traversé en effet plusieurs siècles. Hein.
Alors, j'ai remarqué que vous placez une rupture à la Première Guerre mondiale, ce qui est très intéressant. Est-ce que vous ne pensez pas, et c'est quelque chose qui m'a un peu surprise à la lecture de votre livre, moi qui suis amatrice de littérature médiévale et en particulier des danses macabres, j'ai été assez surprise de constater que vous placiez cette rupture à l'époque contemporaine. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a une rupture initiale au Moyen-Âge tardif, finalement, avec cette émergence de l'esthétique macabre ? Alors, je comprends bien que c'est un problème aussi quand on rédige une anthologie. Il faut faire des choix dans les textes. Est-ce que cette question s'est posée pour vous de privilégier des textes médiévaux ou
Non, la question ne s'est pas posée puisque vous avez donné la réponse. C'est en effet cette fin du Moyen-Âge, ce Moyen-Âge tardif, ce début de la Renaissance, c'est une rupture. Donc c'est une rupture pour plusieurs raisons. D'abord parce que l'imaginaire de l'au-delà est fixé. Hein, on a le purgatoire, l'enfer, le paradis, les limbes, le jugement. Enfin, dans l'imaginaire des gens... Tout est bien fixé.
Vous montrez vraiment une dimension géographique de la mort.
Voilà, la géographie de la mort est fixée. Deuxièmement, les cadres de pensée sont aussi fixés. Alors en effet, avec les grandes danses macabres, hein, bon, qui interviennent bien plus tôt, mais enfin qui à partir du XVe siècle, bon, sont partout, vont être imprimés et réimprimés jusqu'au XIXe siècle et tout. Donc en effet, là, on a franchement une rupture. Une rupture qui est accompagnée par ce qu'on appelle le développement de la devotio moderna, c'est-à-dire que faire son salut, c'est une affaire individuelle. C'est un exercice qui est un exercice intime de travail sur soi. Voilà. Donc là, première grosse rupture. Puis deuxième grosse rupture, ben, en effet, la Première Guerre mondiale. Alors, non pas parce que la guerre tue, bien évidemment, elle tue, mais enfin, la guerre de 30 ans a tué, enfin, toutes les guerres tuent, mais parce que la Première Guerre mondiale, je crois, va imposer un changement qui est un changement du regard. D'abord parce que c'est une guerre de position, donc on vit avec le cadavre, mais ça, beaucoup de soldats l'avaient fait avant, mais surtout le développement de la photo, et le développement de la photo aux mains de particuliers, puisque quasiment tous les soldats ont des appareils photo, va permettre au public de récupérer la chose. Les premières photos de cadavres, elles interviennent dès les premiers reportages militaires sur les guerres en Chine, puis après la guerre de sécession. Mais c'est toujours des photos qui sont quand même un peu contrôlées, puisque c'est des photographes comme Bradley, ils travaillent pour le président des États-Unis. Alors que là, on a des journaux comme j'ai vu, qui vont se faire une spécialité du cadavre, à la fois par un goût un peu voyeur, mais aussi parce que, pour des raisons techniques, les temps de pose sont importants, il y a un cadavre, ça bouge pas.
Il semble aussi que, puisque vous parlez justement de ce choc de l'image, de la photographie, on pourrait justement voir une autre période très forte, c'est la libération des camps, avec ces images justement des tas de cadavres qui, me semble, ont eu vraiment un impact très fort dans les imaginaires, puisqu'on parle de choses très contemporaines.
Alors, oui, bon, moi je m'arrête vers les années 1900. Alors vous avez tout à fait raison. Les images des camps vont être quelque chose de très très fort. Maintenant, les images des camps, elles vont être fortes, non pas dans les années 40-50, mais dans les années 70-80, oui, où là, la Shoah revient sur le devant de la scène, avec les films, etc. Voilà. Le procès de Nuremberg, par exemple, avait donné deux types de films. Les Soviétiques avaient fait un film sur les camps, puis les Américains avaient fait un film sur les camps. Film américain qui était assez intéressant, parce que John Ford y avait travaillé et tout. Et c'est assez curieux, parce que les esthétiques ne sont pas du tout la même. Mais ces deux films n'ont pas été, n'ont pas été vus par le public. Il faudra attendre 30 ans pour ça. Mais c'est vrai que les images de la Shoah, et puis après les images sur le Vietnam... Hein, vous vous rappelez de cette petite fille brûlée, les images de la première guerre du Golfe, etc., font encore une autre rupture.
On va revenir un peu au texte de l'époque moderne et à la manière dont vous avez fait cette anthologie. Donc, l'anthologie laisse énormément de place au texte pour que le lecteur puisse lire les sources eux-mêmes. Vous placez un commentaire avec chacun de ces textes. Pourquoi avoir fait le choix de mettre le commentaire avant le texte et pas après, sachant que certes ça donne des clés de lecture au lecteur, mais en même temps ça l'influence peut-être un peu aussi dans sa compréhension de chaque texte, non ?
Bah, là aussi vous avez fait les deux réponses. Hein. Un, parce que l'idée, est visiblement l'idée était juste, c'est qu'on ne va pas toucher un public que d'historiens. Donc il faut remettre peut-être un peu en perspective pour des gens qui n'ont pas de culture historique très développée dans ces questions. Et puis deuxièmement, c'est un texte d'anthologie, mais ce n'est pas un texte d'anthologie complètement libre. Hein. Quelque part, j'essaie de décliner quelque chose. J'essaie de... Bon, rien que par la manière de les présenter, l'ordre de les présenter et tout. Et voilà, les petites introductions permettent de guider le lecteur hein, et sont un appui à ça, qui renforce d'ailleurs l'introduction, puisqu'il y a une introduction assez longue au départ.
Dans cette introduction, justement, vous dites que donc vous avez décidé d'écarter le monde protestant, de vous limiter au monde catholique et de ne prendre que des auteurs catholiques. Mais il y a deux intrus quand même dans cette anthologie. Il y a un texte de Voltaire, donc on ne présente pas Voltaire, 18e, et un texte de Léonie Rouzade, moins connue, donc une féministe de la fin du 19e siècle qui a eu un rôle politique et qui était écrivaine. Quel est l'intérêt d'avoir placé ces deux textes athées et en plus de manière anticléricale assez virulente, quel est l'intérêt de les avoir placés dans cette anthologie au milieu des livres de piété
Alors, je vous remercie de la lecture très, très précise que vous faites, parce qu'il y a plusieurs chapitres. Et chaque chapitre termine par un texte qui n'a rien à voir avec les autres. Pour justement expliquer que le message que les 10 textes que j'ai présentés dans la partie qui pourrait sembler quelque chose de complètement monolithe, hein, eh bien, il y a des gens qui ne sont pas d'accord. D'où le fait de mettre Voltaire, Léonie Rouzade, des choses comme ça, à chaque fois. C'est-à-dire de terminer chaque chapitre par un contrepoint pour dire, ben voilà, le modèle qui est le modèle que l'Église a voulu imposer, ben ce modèle n'est pas accepté par tout le monde. Donc Voltaire, ce monde du paradis, et puis Léonie Rouzade, qui est une femme assez exceptionnelle par son parcours personnel, la première femme à s'être présentée à des élections alors que c'était interdit.
Et qui a recueilli des suffrages.
Et qui a recueilli des suffrages. Ce qui prouve quand même qu'il y a des électeurs qui la suivaient et tout. Et bien, Léonie Rouzade, vous imagine une âme qui arrive dans l'au-delà et elle voit alors le charpentier, Joseph, hein, la blanchisseuse, la Vierge Marie, qui joue aux cartes et qui se rendent chez Satan de manière à avoir un peu plus chaud et tout. Manière de dire, ben voilà, je vous ai dit de donner 10 textes dans lesquels les gens croient à l'enfer, croient au paradis, etc. Mais il y a des gens qui n'y croient pas.
Et est-ce que ces textes-là, justement, dissidents, sont très diffusés aux époques où ils ont été publiés? Est-ce qu'ils touchent un public peut-être pas aussi large que les livres de piété et de dévotion, mais quel public est-ce que ça touche à ces époques-là?
Ah non, ça touche un public qui est beaucoup plus restreint. Hein, bon, le texte de Voltaire n'est pas obligatoirement un de ses textes les plus connus, et quelqu'un comme Léonie Rouzade qui écrit dans un journal qui s'appelle l'Anticlérical. L'Anticlérical est un journal qui a une bonne diffusion, mais une diffusion dans des cercles qui sont déjà des cercles convaincus. Hein. Donc, on a un modèle qui est largement répandu, on a, j'aime bien votre expression de dissident, on a des dissidents, mais les dissidents n'arrivent pas à détruire le modèle.
Alors, Philippe Martin, je vous remercie d'avoir partagé avec nous non seulement le résultat de vos recherches, mais également vos réflexions méthodologiques et épistémologiques. Et c'est désormais devenu une tradition au sein de ce studio, puisque vous êtes écouté par beaucoup d'étudiants en histoire. Je vous laisse le mot de la fin avec cette question. Quels conseils donneriez-vous aux futurs historiens et historiennes?
Amusez-vous. Choisissez des sujets qui vous plaisent. Choisissez des sujets qui vous font envie. Et puis, pensez quand même que ces sujets, ils ont une résonance dans la société. Et soyez-en conscients. Soyez conscients pourquoi vous avez choisi un sujet, en quoi ça résonne en vous, en quoi ça résonne pour la société. N'ayez pas l'illusion d'être objectif, faut peut-être pas rêver. Mais à partir du moment où vous faites plaisir et vous êtes conscient des choses, je crois que ça sera parfait.
Très bien, cette émission touche désormais à sa fin. Je remercie Nicolas à la régie et je vous remercie vous, Philippe Martin, d'avoir accepté notre invitation.
Merci à vous.